Ah, nous.
C'est pas que commercial, évidemment.
Ils sont pas trop pires.
C'est un moment récupérateur. C'est aussi un moment où il y a des limites.
Mais bien sûr, mais en même temps, il faut quand même que ça se vende.
Vous êtes tenu à ces. Vous n'avez pas des objectifs de ce type-là
quand nous, ce sera pas des objectifs de prêt, de type de prêt, éventuellement. De ramener après les gens autour des collections. Et notamment, on essaye, nous, de faire des bibliographies thématiques autour de l'accueil d'un auteur pour ensuite renvoyer vers d'autres ouvrages. Voilà, c'est.
Et est-ce que vous expérimentez des formes, des choses comme ça avec les je ne sais pas, est-ce que vous êtes vachement sollicité, c'est vous qui sollicitez les auteurs
C'est variable, on peut solliciter, mais sinon on a quand même pas mal sollicité pour du local en fait.
Local,
t'as pas d'heure, toi. Personne n'a d'heure.
Des gens qui
trouvent
des petits éditeurs.
Non,
par le biais de l'internet, maintenant on peut s'éditer assez facilement.
Non, mais je pense que.
Et donc,
vous achetez ces
éditions. Je vais mettre ma montre
comme ça. Oui, donc oui, si on les invite, ils viennent effectivement.
Ouais,
alors après, voilà, alors, c'est là où c'est pas évident d'accepter de parler.
Mais je propose de commencer, puisqu'on m'a bien fait comprendre qu'il faut qu'on soit bien dans les temps, comme c'est 2h30. Mais bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous pour cette rencontre littéraire. Donc, je suis Catherine Jackson, je travaille aux presses de Nancy depuis quelques années. Cette rencontre est liée à un ouvrage, celui-ci, Tour et détour en bibliothèque, carnet de voyage, littérature et photographie, que nous avons édité l'année passée aux presses de l'ENSIB. C'est un ouvrage qui fait partie de 4 publications anniversaires. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir, je les repasse rapidement en revue. On a donc publié pour ces 20 ans un essai, tête bêche, un essai. On a confié une carte blanche sur l'imaginaire des bibliothèques à Annette Wieworka d'un côté et Christian Jacob de l'autre. On a également publié cette transcription d'une conférence que Jacques Roubaud avait faite à l'école pour les élèves il y a quelques années, en tant que poète et surtout en tant que lecteur de bibliothèque, collectionneur de bibliothèque. Et un autre ouvrage, cet essai, consacré à l'architecture et à la construction des bibliothèques ces dernières 20 années. Voilà. Et on a terminé ces publications anniversaires par cet ouvrage-ci, qui est un ouvrage dédié à la création, à la littérature, accompagné d'un important jeu de photos. La commande, je la rappelle, pour cet ouvrage-là, était la suivante. On a sollicité un certain nombre d'auteurs, des écrivains, qu'on a estimés possiblement intéressés par cet objet qui est la bibliothèque. On leur a passé la commande et ils devaient choisir une bibliothèque à partir d'une liste qui a été constituée, qui est d'ailleurs disponible. On a une base de données qui recense des constructions de bibliothèques récentes, les 20 dernières années en France. Chaque écrivain a choisi une bibliothèque et avait finalement comme mission, sorte de micro-résidence, d'aller à partir ou dans ou avec cette bibliothèque, d'écrire un texte qu'on a publié. Pour le travail photographique, bon, la photographe n'est pas là, mais j'en dis quand même quelques mots, parce que vous pouvez voir qu'il y a plusieurs dizaines de photos dans cet ouvrage. La photographe, elle, a fait le tour de l'ensemble des bibliothèques choisies par les écrivains. Donc c'était encore un autre type de démarche. Et à cette table sont donc présents deux des écrivains. On fera connaissance, voilà, très bientôt, qui sont là sur ma gauche. Et puis deux des directeurs des bibliothèques choisies par les écrivains. Je voulais vous dire un mot sur l'intention qui a présidé à cet ouvrage, qui était pour moi de faire savoir quelque chose des bibliothèques, quelque chose de différent qui rende compte de l'expérience des bibliothèques, mais par le truchement de formes artistiques, avec l'idée que ce quelque chose était forcément autre que les savoirs professionnels que nous pouvons avoir, nous, comme bibliothécaires. Et c'est un peu cette vision qui m'a importée dans dans le projet tel qu'il est conçu ici, c'est-à-dire de considérer la vision, de considérer plutôt l'art comme pouvant créer un point de vue singulier, un point de vue et voir une certaine forme de connaissance, que les textes, on en reparlera peut-être, peuvent éventuellement questionner, voire tenir à distance pour certains. Mais c'était vraiment cette construction d'un point de vue singulier, artistique, qui me tenait à cœur dans ce projet. Voilà. Donc c'est un livre dense, peuplé, assez polymorphe. On pourra en aborder seulement quelques aspects avec les invités, qui sont tous acteurs finalement de l'écosystème du livre. Je vais vous les présenter rapidement. À ma gauche, Christine Détresse, qui a publié deux romans chez Chèvrefeuille étoilée, qui est une maison d'édition, je crois, des années 2000, voilà, à Montpellier, une maison associative qui publie essentiellement des femmes du pourtour méditerranéen, qui est sans doute plus connue dans nos milieux en tant que sociologue, chercheur, et en particulier sur les pratiques culturelles, la lecture chez les adolescents, mais qui a ici été invitée en tant qu'auteur. À côté, Marie-Pierre Dion, qui est donc la directrice de la médiathèque de Valenciennes, qui arrive de Valenciennes ce matin. À son côté, Benoît Taillandier, qui est directeur depuis septembre de la bibliothèque de Gérardmer, dans laquelle s'est rendu Philippe Fusaro, qui a écrit ce texte « Le pas de l'autre » après avoir visité la bibliothèque de Gérardmer, qui a publié un certain nombre de romans, essentiellement à La Fosse aux Ours, qui est une maison d'édition lyonnaise de littérature générale avec un département italien assez important qui n'est pas étranger à vos domaines, qui a dû aussi dans les années 2000, je crois. Voilà, nos quatre invités. Et pour organiser un petit peu cette rencontre, j'avais pensé à créer deux duos, puisque ces personnes ne se connaissaient pas, vous n'étiez pas rencontrés en termes d'équipe, et j'ai demandé à ce que chacun imagine, pense à une question à poser à son vis-à-vis, et réciproquement, de manière à pouvoir, dans le cadre de ce congrès professionnel, essayer de se faire rencontrer un auteur et un professionnel des bibliothèques. Donc, je propose qu'on commence par l'équipe masculine. Ça, c'est vraiment un hasard objectif, une équipe masculine, une équipe féminine. L'équipe de Gérardmer, d'une part. Comment ? Ouais. Et puis ensuite, je lirai un très, très court extrait du texte de Philippe Fusaro. Ensuite, je vous propose, on passera à l'équipe de Valenciennes avec ce même principe d'une question chacune. Alors, ils ont échangé un petit peu par mail, on a un peu échangé, mais pas tant que ça, finalement. Donc, il y aura aussi la surprise. Je lirai un très court extrait du texte de Christine Détresse et puis de manière à ce qu'on puisse avoir un peu de temps pour ceux qui le souhaitent pour échanger. Donc, je laisse la parole à l'équipe de Gérardmer. Je propose que Philippe commenciez à parler avec votre vis-à-vis.
Bonjour. Alors effectivement, on ne s'est pas rencontré avec... J'ai rencontré l'ancienne directrice en novembre 2011, quand je me suis rendu à Gérardmer un beau week-end de pluie. Mais c'était très joli au bord du lac. Et toi, tu travaillais en fait, au troisième étage où il y a du DVD, des disques. J'ai fait un petit tour, mais je ne me suis pas présenté. C'est ma question, j'y ai repensé aussi en lisant les textes des différents auteurs, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent quand, pour ceux qui liront peut-être ce livre, l'auteur, quand il arrive dans la bibliothèque, souvent ne sait pas vraiment comment se présenter, voire n'ose à peine pas se présenter, voire ne se présente pas du tout dans le cadre d'Alice Fernet, par exemple. Et moi, j'étais un petit peu moins timide, j'ai été très poli, je suis allé demander à la directrice qui m'attendait. Mais je me suis posé la question, voilà, qu'est-ce que... Alors, pas forcément dans le cas de j'allais dire d'un service commandé entre guillemets, mais quelles sont les attentes du bibliothécaire quand il reçoit un auteur, qu'est-ce que ça signifie pour lui de lui offrir un espace? Est-ce que c'est ce qui se passe en librairie, c'est-à-dire il vient simplement dans le cadre de la présentation de son dernier roman? Est-ce qu'une bibliothèque ça sert à ça? Je veux dire, les librairies le font déjà. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi d'autres formes dans ces lieux-là? Voilà.
Excusez-moi, j'ai oublié quand même en présentant Philippe Fusaro de dire que donc il est écrivain romancier, mais il a été très longtemps libraire à la librairie, à une librairie à Lyon d'ailleurs. Maintenant, vous êtes plus sur la formation pour les libraires, mais donc vous avez vraiment une pratique de la librairie et de la littérature pendant 15 ans. Voilà.
Bonjour. Alors, déjà, je vais un peu parler presque par procuration parce que. Comme l'a dit Catherine Jackson, je suis directeur de la médiathèque de Gérard Armé depuis très peu de temps, donc septembre dernier. J'ai pris le relais de mes prédécesseurs, notamment Michel Ferry, qui était resté 40 ans, qui a fait évoluer cette bibliothèque jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc auparavant, j'étais responsable de ce qu'on appelle chez nous la section audiovisuelle, puisqu'on scinde les livres et encore les livres et puis les autres types de supports. Donc je gérais une collection de disques, de DVD, et donc je faisais des animations en lien avec ces supports, et donc musicales, cinématographiques. Donc l'accueil d'auteur, en l'occurrence, c'est tout frais pour moi, même si je voyais donc mes collègues les accueillir, que j'y participais moi en tant que simple spectateur. C'est vrai que j'ai pas une pratique de cet accueil d'auteur très très ancienne. Ceci dit, à Gérard Armé, on l'a plus ou moins toujours fait, enfin assez couramment, assez régulièrement. Ça s'est presque même accentué depuis quelques années, puisque on essaie de plus en plus de faire vivre nos bibliothèques. Je pense que tous les bibliothécaires qui sont là ici présents me rejoignent sur cette idée-là que la bibliothèque, il faut la faire vivre si on veut que les gens y viennent et se rabattent ensuite sur les collections et que tout ça bouge. Donc l'accueil d'auteurs, il est très très variable, enfin très varié. C'est-à-dire que il peut venir d'une demande comme il peut venir nous d'une envie. En l'occurrence, depuis le début de l'année, on a dû accueillir déjà 4 auteurs dans les profils, on a accueilli une personne qui fait partie de la bibliothèque, qui participe à un atelier d'écriture régulier que nous avons mis en place à la médiathèque et qui a fini par sortir un livre autobiographique sur une partie de son enfance. Et elle s'est éditée par le biais d'un petit éditeur trouvé sur Internet et qui l'accompagne en tout cas dans ses débuts. Après, c'est son huile de coude à elle pour vendre... pour vendre son travail. Et donc voilà, c'est cette personne-là, elle est venue vers nous, elle nous a dit voilà, je viens de sortir ce livre-là, j'aimerais pouvoir le présenter, est-ce que ça vous intéresse? Et nous, on reste de toute manière bien sûr ouvert en règle générale à ces propositions. C'est effectivement, ça peut être délicat parfois dans ce cadre-là, parce que le fond n'est pas toujours forcément hyper intéressant. Le genre un peu autobiographique local d'une personne qui sort ne peut intéresser qu'elle-même, pas forcément plus généralement tout un public plus nombreux. Là, en l'occurrence, on trouvait qu'il y avait quand même du fond et qu'il y avait matière à proposer une rencontre, à y réfléchir, et puis sur l'écriture, c'était assez travaillé. Donc on s'est lancé. Ceci dit, je n'ai pas l'expérience, moi, d'un refus de quelqu'un qui serait venu nous proposer quelque chose qui ne nous aurait pas... voilà, qui nous aurait déplu ou on aurait eu du mal. Je trouve que c'est pas forcément toujours évident de dire, bah non, là, écoutez, on peut pas présenter décemment ça au public de la médiathèque. Donc je sais pas trop comment, si le jour où ça arrivera, comment on s'en dépatouillera. On a reçu, donc alors à l'inverse, on a parfois des envies d'auteurs et le responsable de la section adulte de la médiathèque est un grand lecteur de Jean-Marc Agrati. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ça. C'est pareil, c'est un auteur assez avec un public assez restreint, mais qui est édité aux éditions qui m'échappe, Workshop. Workshop et les choses. Personne pour m'aider, non. Bon, tant pis. Je reste seul. Dystopia Workshop, voilà. Dystopia Workshop, qui est un petit éditeur très intéressant. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir sa production. Parce qu'il... Donc, c'est plutôt de la littérature de genre, assez entre science-fiction, fantastique, un peu polar, un peu littérature étrange. Et donc voilà, donc Jean-Marc Agrati est un auteur de ce... Il a été édité avant... Oula, excusez-moi. Il a été édité avant aux éditions Hermaphrodite, qui est un petit éditeur local sur Nancy, peut-être un peu, voilà, qui n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, qui avait aussi une production très intéressante. Donc bref, on connaissait son parcours. Ça, c'était vraiment une véritable envie de bibliothécaire. Donc... Il venait de Bretagne, il était prévenu à la bibliothèque, il fallait juste qu'on prenne en charge son déplacement, voilà, un hôtel. Donc c'est ce que ça nous a coûté, et puis donc on a défendu ce projet-là. Donc c'est aussi notre démarche qui vient de nous. Après c'est sûr que dans ce qui nous est souvent proposé, il y a beaucoup de choses autour du terroir, autour de l'histoire aussi, beaucoup de choses autour de livres d'histoire. On a reçu un auteur, Cédric Dargent, qui est un auteur local qu'on a reçu déjà deux fois, qui a déjà sorti un livre autour de Catherine de Médicis et là récemment autour de Marie-Antoinette. Alors à chaque fois c'est l'occasion de d'allier le livre et de potasser un petit peu le fond. Et notamment, ce que je disais, c'est qu'à chacune de ces rencontres-là, ce que je disais avec Philippe Fusaro avant que la rencontre se lance, c'est qu'on essaye de faire une bibliographie thématique en fonction de l'auteur qu'on reçoit. C'est-à-dire que sur le fond, l'objectif, c'est aussi quand même de ramener le public présent vers nos collections, parce qu'on reste une bibliothèque, même s'il faut la faire vivre. L'objectif, c'est quand même aussi que le livre derrière sorte. Et donc, voilà. Donc, l'objectif, c'est tout ça. Et au-delà du fond, on essaie beaucoup de parler à travers ces rencontres du travail d'écrivain. Qu'est-ce qui a amené les auteurs à l'écriture, comment ils s'y prennent, est-ce qu'ils écrivent le matin, à l'aube, le soir, tard, est-ce qu'ils aiment bien le concept de la machine à écrire à l'ancienne, est-ce que c'est plutôt au stylo, je sais pas, un chapitre sort d'un jet, ou alors effectivement il leur travaille. Voilà, donc on parle beaucoup sur le travail d'écrivain, et après donc sur la recherche d'un éditeur et comment ça se passe, l'édition en général, une fois qu'on écrit. Parce que je pense que ça intéresse énormément. Qui n'a pas eu un jour la velléité d'écrire, de passer le cap. Dès lors qu'on est lecteur, je pense qu'on voudrait aller plus loin. On n'est pas... Il y en a qui disent non, mais c'est enfoui, mais ça surgira un jour ou l'autre. Et donc voilà. Donc c'est toujours intéressant de savoir, de donner les clés qui peuvent éventuellement aider au public de la médiathèque de franchir le pas, si jamais un jour il lui prend envie. Voilà.
Franchir le pas. Donc vous répondez aux sollicitations. Enfin, vous avez fourni une première réponse, en tout cas sur vos attentes de directeur pour ce que pourrait être la place ou de la littérature ou du livre ou de l'écriture, mais on va renverser le jeu de casquettes et être assez intéressant puisque vous avez rencontré un écrivain, un poète, qui avait été, je crois, classés justement dans ce qu'on appelle le fonds régional. Donc déjà, ça donne aussi une indication de la place que peut prendre un poète dans un établissement. Donc je laisse la parole à Philippe.
Alors, c'était un petit peu particulier aussi, parce que le poète que j'ai trouvé, il avait été publié dans une maison d'édition que, bon, en tant que libraire, je connaissais, que j'aimais bien, Ancrage & Co, qui, à cette époque-là, se trouvait, le livre daté de 1991, et l'éditeur avait ses locaux à Xorub, qui est juste, c'est la banlieue de Gérardmer, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, voilà. Mais voilà.
Ouais. Frustré de votre question que vous avez préparée pour.
On débute juste effectivement le texte de Philippe Fusaro, donc qui est venu nous rendre visite à Gérardmer lors de sa visite en amateur de poésie et en poète, lui-même modeste, parce que je sais que c'est pas reconnu, mais en tout cas l'écriture ressemble beaucoup, en fait. C'est cette poésie qui est de la poésie en prose, mais c'est évident que ça transpire ton écriture. Ma question, donc dans ce texte, à un moment donné, effectivement, tu abordes le fait que dans les bibliothèques, tu ne comprends pas pourquoi le fonds poésie est souvent très modeste, pas forcément bien mis en valeur, et que c'est un constat que tu trouves assez général, en tout cas que tu fais souvent d'une bibliothèque à l'autre. Et voilà, je voulais savoir, toi, en tant que libraire, en tant qu'auteur, amateur de poésie, comment tu mettrais cette poésie en valeur, alors notamment à Gérardmer, puisque c'est le but de ta visite.
Alors, en allant à Gérardmer, ce que je dis dans le texte, c'est que je sentais que j'avais envie d'aller vers la poésie, d'essayer de trouver un poète, et en l'occurrence, je suis tombé dans le fonds régional sur ce poète, Jean Krajenko, qui n'avait rien publié pendant 20 ans, qui s'appelait Gilbert Vautrin, qui a été pour moi véritablement une très belle rencontre, puisqu'après j'ai réussi à le retrouver, parce qu'il a une vie un petit peu compliquée, s'est déplacé, même s'il est toujours il est du côté de Nancy. Ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais quand je suis allé dans le rayon poésie, parce que je ne vais pas non plus critiquer, comment je peux dire ça. Oui, la critique est positive. Alors, d'abord, c'est une librairie qui était bien achalandée, où il y avait un gros fonds littérature, où là, je retrouvais beaucoup de choses, bibliothèque, où je retrouvais beaucoup de points communs avec des nouveautés qu'on présentait en librairie. Après, il ne faut pas évidemment comparer ce qui n'est pas comparable entre une librairie de centre-ville à Lyon et une bibliothèque de Gérardmer, ou même comparer une bibliothèque de la bibliothèque de la Pardieu qui achète, je peux le dire, puisque nous on leur fournissait les livres à ce moment-là chez Passage, un fonds poésie quand même important, on ne va pas le retrouver à Gérardmer. Alors, en tant qu'auteur comme ça, je me suis souvent déplacé dans des petites bibliothèques, et c'est vrai que le fonds poésie, il n'est pas toujours très développé. Là, pour le coup de Gérardmer, je trouvais que le décalage, il était plus fort, parce que vraiment, véritablement, il y a un fond littérature, je trouvais, cohérent avec ce qui paraît aujourd'hui. Par contre, je trouvais qu'il y avait effectivement un décalage assez important entre la réalité des publications de poésie aujourd'hui et le fond. Alors là, j'en parlais aussi parce qu'à ce moment-là, chez Passage, moi, je m'occupais du rayon poésie, et donc je vois bien ce décalage. C'est-à-dire quand je vais dans le rayon poésie, alors à Gérardmer, je m'attendais peut-être déjà au départ un peu plus de tout simplement la collection Poésie Gallimard Poche. Il y en avait quelques-uns, mais pas tant que ça, et puis peu dans les parutions vraiment, vraiment récentes. Pas souvenir, je crois que j'en ai pas trouvé un seul de livre de chez Chêne Éditeur, qui est un éditeur quand même très présent dans les librairies indépendantes, après, et dans les bibliothèques. la poésie, la collection poésie de POL non plus. Enfin, donc que là-dessus, je trouve que voilà, il y a un décalage important, d'autant plus que on se dit toujours, tout à l'heure on en parlait, qu'on se dit la poésie c'est un peu mort, et alors que bon, c'est totalement faux, parce qu'il y a une vraie demande. Dans une librairie, on le voit, c'est des ventes importantes. Et alors, les ventes sont importantes si aussi le libraire y consacre un rayon, enfin un espace important à cela. Et je pense que pour la bibliothèque, j'imagine que c'est la même chose. Si l'un des bibliothécaires a le goût de la poésie, c'est sûr qu'il va développer ce rayon. Et là, on sentait bien que c'était pas le cas. Après, c'était pas complètement un reproche, parce que c'est peut-être aussi une réalité. Est-ce que voilà, dans les petites villes comme celle-ci, la demande n'est peut-être pas suffisamment importante. Mais je pense que là, enfin, on peut quand même améliorer un petit peu. Voilà. Voilà, un travail à faire.
Et juste pour, en dehors de Gérard Armé, puisque là vous avez renversé un peu la casquette en tant que libraire qu'écrivain, vous disiez, est-ce qu'inviter un auteur, c'est la promotion du livre, quels seraient, les libraires le font déjà, dites-vous,
oui.
Mais c'est pas exclusif, c'est pas une concurrence.
Non, c'est pas
donc,
une concurrence. Non.
Comme ça, de votre position à vous, quelles pourraient être les formes d'accueil, les formes de médiation
Alors,
autour de la littérature au sens large, parce que moi j'ai plutôt tendance à parler de littérature avec la poésie.
Oui. Alors pour le, là en tant qu'auteur, ce que moi je fais, ce que je peux peut-être moins faire, sauf si je connais davantage le libraire ou c'est souvent, j'essaie aussi d'expérimenter un petit peu des formes. Je l'ai fait avec quelques librairies où je prépare pour le coup une lecture, quelque chose de plus long que ce que je peux faire quand le livre paraît, que je me retrouve chez le libraire. Le libraire, évidemment, il veut vendre le livre, même si le libraire, d'abord, il a envie de passer un moment et de partager avec ses lecteurs. Hein, il le fait vraiment par envie, ça, c'est évident. Et moi, je pense qu'en bibliothèque, on peut aussi, surtout très souvent, les bibliothèques déjà s'y prennent vraiment plus longtemps à l'avance pour organiser ces rencontres. On peut aussi expérimenter d'autres formes. Là, j'ai fait parfois des lectures où j'insérais de la musique, je le faisais sur fond musical, avec des projections d'extraits de films, comme j'avais pu le faire pour le dernier roman. Enfin, et je trouve que voilà, l'idée, c'est aussi d'utiliser la bibliothèque. Alors, comme j'ai été libraire aussi, parfois je m'amusais à parler de livres, donc j'allais d'abord faire un tour dans la bibliothèque pour repérer des livres dans les fonds et en parler en même temps. Enfin, voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire davantage avec véritablement un dialogue plus poussé entre le bibliothécaire et l'auteur, en amont. Et je pense qu'on pourrait vraiment s'amuser davantage. Voilà.
Et Marie-Pierre Dion, vous voulez faire écho à cette question, par exemple à Valenciennes, de ce point de vue-là, puisque vous, après, vous allez parler un petit peu différemment, je crois, du sujet.
Oui, il y a à Valenciennes, nous avons aussi ce qu'on appelle des ateliers. Donc, nous invitons des auteurs sur une durée plus ou moins longue, soit une simple visite, une simple après-midi, soit une résidence dans le temps, pour des ateliers. Pour un travail d'initiation à l'écriture au cours duquel le poète ou l'écrivain en profite pour sensibiliser le public à des auteurs qu'il n'aurait pas eu l'idée de rencontrer ni de lire. Alors il y a aussi la rencontre que nous essayons quelquefois, c'est plus difficile de nouer entre les auteurs et notre fonds ancien, notre patrimoine majestueux, je dirais. Bon, je suis à la recherche désespérée d'un poète qui voudrait se mesurer à une nouvelle traduction de la Cantilène de Sainte-Eulalie. Donc, si ça vous intéressait, je serais ravie de vous accueillir à Valenciennes. Voilà.
C'est le bon endroit, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Oui. Donc là, ça serait plutôt un dialogue entre des écrivains, des poètes contemporains, le fond ancien.
D'accord.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres... Vous avez fait le tour de vos questions pour l'instant ?
On pourrait parler des heures, mais on va manger une bonne partie de la rencontre.
D'accord, merci. Je vais lire donc un tout petit extrait, quand même, pour être dans le texte de Le pas de l'autre, qui est la fin du texte de Philippe Fusaro. Un matin de neige, l'auteur et le poète se retrouvent devant la bibliothèque pour une marche athlétique autour du lac. Gilbert, la soixantaine, jambes moulées dans un pantalon fuseau conçu pour cette pratique, basket de compétition, écharpe de laine et bonnet bleu marine, tend la main à l'auteur en survêtement rouge vintage, Adidas et basket de ville usée, écharpe de laine, pas de bonnet à cause du gel dans ses cheveux. Gilbert lui confie que tel Tennessee Williams, qui nageait chaque jour avant d'écrire, lui marche, mais mieux que Tennessee, écrit en marchant. J'écris sans le vouloir, dit-il, à cause du paysage, de la neige en hiver, de l'odeur des sapins, de la brume sur le lac, quel que soit le temps. Gilbert est bavard, et l'auteur en oublie ses joues écarlates, l'effort qu'il fournit si rarement, la douce sensation de brûlure lorsqu'il respire. Gilbert partage ce moment d'intimité. L'incursion d'un autre dans son univers n'est pas fréquente. Il accueille l'auteur dans son atelier, en somme. Celui qui le protège de notre soi-disant monde, dont parlait Cummings. Un atelier en mouvement, une fenêtre ouverte sur l'extérieur avec un panorama à 360 degrés. Gilbert évoque ce besoin de mettre son corps, sa peau sur la table, chaque jour. Le poème est rare, il réclame de l'effort, beaucoup de sueur. L'auteur et le poète s'entretiennent ainsi une matinée entière. Ils en oublient de compter le nombre de tours du lac. Et ça continue encore un petit peu. Voilà. On va changer de région, de type de médiathèque, de texte. Le texte de Christine Détresse s'appelle « De fil en aiguille », puisqu'elle a revisité une bibliothèque qu'elle connaissait depuis l'enfance. Non ? Enfin, justement, non. Justement. Un des fils qui court dans tous ces textes, c'est aussi une certaine crainte, une certaine timidité face à la bibliothèque, face à l'institution bibliothèque, face à cette symbolique d'un savoir académique. Et ça a été une des surprises, d'ailleurs, à la réception de ces textes. Plusieurs des écrivains, qui sont des personnes soit d'éminents chercheurs, des écrivains qui ont déjà publié et qui... Je pense à une autre, par exemple, qui n'était jamais rentrée en bibliothèque universitaire et qui a vraiment passé des mois à tourner autour, Fabienne Sviatli, dont je crois que la fin du texte, les derniers mots sont « J'y suis entrée ». Et en écho, il y a aussi le texte de Christine Détresse qui, des années après, revient, et je lirai aussi un extrait, et se trouve un tas de qui cherchent désespérément à tomber malade. Enfin, il y a cette commande, mais il faudrait qu'elle rentre dans cette bibliothèque. Elle n'y arrive pas, et bon, elle va en parler. Et je propose que vous commenciez peut-être à poser une question. Si tu veux. Oui, tu commences.
Oui, en fait, c'est pas que c'était pas ma bibliothèque d'enfance, parce que moi, je viens du Nord, mais d'un tout petit village. Donc Valenciennes, c'était la grande ville. Donc c'était l'endroit où justement, j'allais pas à la bibliothèque, parce que j'allais à la bibliothèque du tout petit village à côté. Et ma question, en fait, elle va être justement liée à ce que tu viens de dire, et puis vous avez parlé de la cantilène de Sainte-Eulalie, c'est qu'effectivement, je tournais autour. En fait, j'avais vraiment très, très peur, en fait, de ce texte. Alors, au début, en fait, quand Catherine me l'a demandé, j'étais... Puis tout à l'heure, quand elle dit des écrivains, je me suis dit, oh, elle parle de moi. Parce que moi, je suis sociologue. Enfin, c'est comme ça, en fait, où je suis légitime, où je suis reconnue. Et après, c'est intéressant, la question de se dire à quel moment on est écrivain. Alors, au début, je me suis dit, bon, c'est quand tu auras écrit un roman. Bon, super, j'ai écrit un roman. Mais c'est une petite maison d'édition. Alors, oui, mais après, je me suis dit, c'est quand on aura écrit un deuxième. Mais c'est toujours dans une petite maison d'édition. Et du coup, c'est voilà, y avait cette idée-là. Quand j'entends une écrivain, je me dis, tiens... Et du coup, j'avais... Donc, quand tu m'as demandé, je me souviens, c'était à la fête du livre de la jeunesse de Villeurbanne, j'étais vraiment extrêmement heureuse et flattée, sauf qu'à un moment, il faut aller écrire le texte. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et comment je vais faire pour ne pas être rattrapée par mon travail de sociologue, de la lecture, des ados, des bibliothèques, etc. Donc, effectivement, j'ai tourné autour, je suis rentrée. Et puis là, j'ai découvert, je me disais, est-ce que je prends un livre? Est-ce que je me suis dit, je vais retomber dans un texte où ça va être une analyse des ados qui lisent et qui lisent pas, et pourtant ils lisent et pourtant ils lisent pas. Et puis, donc je suis rentrée d'abord dans un gratte-salle où c'est une bibliothèque magnifique pour le coup, et d'une poésie. Et c'est ça qui m'a sauvée finalement, c'est qu'elle est beaucoup plus poétique pour moi que sociologique, quelque part. Et puis, il y a eu ce cheminement, d'abord la grande salle avec la grande verrière, et puis après la bibliothèque des Jésuites, et puis après ce texte de la Cantilène de Sainte-Eulalie, où moi, ça a été un émerveillement. Alors pourquoi? Peut-être je vous raconte en deux secondes l'histoire de Sainte-Eulalie. C'est une martyre, en fait, qui... vous compléterez, vous corrigerez. Donc c'est une martyre, et puis on essaye de la tuer. Enfin, c'est Blandine, quoi, sauf que c'est Eulalie. Et ils essayent de la brûler, puis elle a tellement pas de péché qu'elle brûle pas, et donc on finit par lui couper la tête et elle s'envole comme une colombe. Et du coup, voilà, moi ça m'a rappelé toute mon enfance où j'adorais Blandine, et quand j'étais arrivée à Lyon, voilà, voir que c'était ici que Blandine s'était fait, qu'il y avait eu toute cette histoire de Blandine, il y avait vraiment un parallèle. Et du coup, ma question, c'est ça par rapport à votre définition de ce que c'est qu'être bibliothécaire ou avoir une bibliothèque, c'est. Parce que, donc il y a cette Sainte-Eulalie, là, cette petite martyre, cette petite colombe, et puis en même temps on voit la verrière, et puis on voit les oiseaux qui passent, et puis c'est une architecture très moderne aussi. Et du coup, dans votre métier, est-ce que comment on fait, quoi, en fait, pour avoir les deux, en fait, pour continuer à s'occuper de la petite martyre, la petite colombe, et puis des enfants qui sont là. Et puis, bon, en plus Valenciennes, je sais que c'est un public qui peut être varié, qui peut être Valenciennes, c'est Valenciennes, quoi, avec toutes les dichotomies, enfin, la variété de public qu'il peut y avoir dedans. Donc au quotidien, comment ça se passe, cette tension entre une bibliothèque de patrimoine et puis une bibliothèque d'accueil, parce que l'impression que j'ai eue, sans y rester longtemps, encore une fois, c'est une bibliothèque qui fait les deux, en fait.
Je pense que vous avez raison de parler de tension, peut-être, entre les deux missions qu'on oppose traditionnellement, la conservation et le patrimoine, d'un côté, et puis la lecture publique de l'autre. Tension parce que ces deux missions n'ont pas été... au moins pour la première, n'a pas été choisi. C'est quelque chose qui lui a été imposé. C'est un héritage qui date de la Révolution, dont la ville a bien essayé d'éluder à plusieurs reprises. Il y a eu notamment des projets de reconstruction, de dissociation entre la lecture publique et le patrimoine à travers plusieurs projets. Et l'un des derniers en date... consistait à reconstruire une bibliothèque très moderne en bordure de Valenciennes, mais on était en 1913 et bien entendu les travaux ont été suspendus par la guerre et abandonnés. Et la deuxième fois où la ville s'est interrogée sur la possibilité de conserver l'alliance entre les deux, c'est en 1994, donc beaucoup plus tard, au moment où le patrimoine était quelque chose qui commençait à être, rentré dans les mœurs. Et donc, on a conservé l'alliance des deux et la bibliothèque ancienne est devenue en quelque sorte, le noyau de la bibliothèque moderne. On a construit tout autour de l'ancien les bâtiments contemporains. Et donc, la bibliothèque ancienne est un petit peu l'âme, si je puis dire, du bâtiment. On a un petit peu le même phénomène à Troyes, mais à Troyes, c'est un petit peu différent. On a déménagé complètement l'ancienne bibliothèque pour l'enfermer au cœur du bâtiment moderne. Donc, à Valenciennes, les deux missions, donc, par la force des choses, sont restées liées. Je dirais qu'elles... On est passé du mariage forcé du 19e siècle à une relation un petit peu plus amoureuse aujourd'hui, parce que les gens sont fiers maintenant de leur patrimoine. Et s'il y a tension, je ne pense pas que ce soit entre les deux missions entre elles, la lecture publique d'un côté et le patrimoine de l'autre. Je pense que la tension, elle est au sein de chacune des missions, parce qu'au sein de la mission patrimoniale, il y a d'énormes enjeux, d'énormes défis à relever. Et au sein de la mission lecture publique, il y a aussi d'énormes enjeux à relever. Du côté patrimoine, il faut essayer de rattraper des retards de deux siècles, puisque les fonds anciens n'ont jamais été très bien soignée pendant ces deux siècles des débuts de la bibliothèque, en fait. Et puis, bon, bah, la lecture publique, c'est une ville, effectivement, où il y a énormément de chômage, où il y a un grand nombre, un très gros pourcentage de population attributaire de minima sociaux, avec des grands quartiers en cours de rénovation urbaine. Donc, évidemment, les projets sont très, très lourds et très prenants des deux côtés, mais ils ne sont pas en concurrence. Et tant que les projets des bibliothécaires pourront être aidés, bénéficier d'aides publiques ou bénéficier de la coopération entre bibliothèques ou d'importants partenariats, je ne pense pas qu'elles entreront en contradiction l'une avec l'autre. Au contraire, au quotidien, nous essayons de présenter au public un visage avenant qui reflète l'histoire de la bibliothèque, la richesse de son patrimoine et la complémentarité très étroite, finalement, entre le patrimoine littéraire, historique, et puis la réalité d'aujourd'hui. Après tout, certains auteurs qui sont sur les rayons de lecture publique le sont aussi sur les rayons patrimoniaux. Donc, il y a une unité. Bon, que les bibliothèques, je pense que Valenciennes n'est pas la seule, arrivent à gérer de manière harmonieuse en présentant les fonds anciens régulièrement au public, en présentant des programmes culturels qui associent les deux, le patrimoine et la littérature contemporaine, ou bien en organisant de nombreuses visites pédagogiques, visites de classe, où aussi bien le patrimoine que les ressources de la bibliothèque contemporaine sont présentées. Alors, s'il y a tension, je crois, c'est au niveau des bâtiments. Parce que on ne peut pas dire que la bibliothèque soit 50% bâtiments modernes et 50% bâtiments contemporains. On est 20% bâtiments contemporains et 80% bâtiments anciens, avec tout cela, ce que cela implique de difficultés à meubler, à bouger les rayonnages, à ne pas pouvoir les poser à tel endroit parce qu'il y a une fenêtre, à ne pas pouvoir les poser à tel autre endroit parce qu'il y a un graffiti jésuite. Donc, les bâtiments anciens sont vraiment une lourdeur, une difficulté au quotidien, mais pas le patrimoine écrit, je ne pense pas.
C'était ta question de sociologue, en fait. Et je crois que tu avais aussi une question plus personnelle sur le poème.
Oui, bah c'était du coup aussi... parce qu'en plus, vous en avez parlé juste avant, en disant que votre rêve, ce serait que quelqu'un vienne et en fasse quelque chose. Donc, c'était voilà, votre rapport personnel à cette cantilène, en fait.
Alors, la cantilène de Sainte-Eulalie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le premier poème de la littérature française et de toutes les littératures romanes en général, et elle est conservée à Valenciennes, ce qui est étonnant parce qu'on aurait pu imaginer que le tellier la prélève au XVIIe siècle pour en faire cadeau au roi, comme il a fait avec ses autres collections, ou que la bibliothèque, les commissaires de la République la prélèvent aussi pour la ranger à la Bibliothèque nationale pendant la Révolution. Mais non, elle est restée à Valenciennes, et c'est un texte... Vous avez dit tout à l'heure que c'était l'histoire d'un miracle, mais la cantilène est un miracle à elle toute seule parce que, bon, elle a été conservée, c'est un manuscrit, c'est un texte qui est daté de 880, fin de l'époque carolingienne, et donc il a traversé le temps, il a été conservé par hasard à la fin d'un manuscrit qui aurait pu être détruit parce qu'il s'est passé toutes sortes de choses épouvantables à Valenciennes et dans le nord de la France, et non seulement il est parvenu jusqu'à nous, mais c'est là qu'il y a un miracle. Il est conservé à côté du plus ancien texte rédigé en langue germanique. Donc, il y a là un miracle linguistique. Donc, le premier texte en français est conservé aux côtés du premier texte en allemand. Alors, ce texte nouveau de voir défiler à Valenciennes des cohortes de touristes, de chercheurs, de visiteurs de toutes sortes, parce que cette particularité de la bibliothèque est indiquée dans tous les guides de tourisme, dans toutes les notices sur Valenciennes. Et les demandes se sont encore multipliées avec l'arrivée d'Internet et donc la démultiplication de l'information. Donc ce document qui est très demandé, que tout le monde veut voir, certains ne viennent que pour ça à Valenciennes, eh bien, nous ne pouvons pas le montrer parce que c'est un manuscrit carolingien très fragile avec une reliure qui a conservé en peau non apprêtée, qui a conservé ses poils en fourrure. Donc, et donc, nous devons rivaliser d'imagination, de talent, de pédagogie pour expliquer nos problèmes de bibliothécaire au public, leur donner quand même une idée de ce qu'il y a dans le texte et ne pas les frustrer trop. Donc, ce poème résume en lui seul toute la difficulté, je crois, du métier de bibliothécaire. Et au-delà du métier de bibliothécaire qui n'intéresse que nous, bon, c'est un texte sur lequel les chercheurs se penchent depuis 1837, date de sa découverte, qui a été étudié sous de multiples coutures. On l'a par exemple étudié de manière linguistique, de manière littéraire, de manière poétique, mais aussi de manière historique, de manière hagiographique, puisqu'il s'agit d'une histoire de Sindh. Il y a aussi des théologiens qui se sont penchés sur elle, et même des sociologues, puisque, comme c'est un texte littéraire, se pose le problème de son public, qui la lisait, à qui était-elle destinée. Donc tous ces chercheurs qui ont écrit sur elle, qui ont passé des heures et écrit des tonnes de publications sur elle, non, je crois, pas réussi à en épuiser le sens. Son mystère reste entier. Et je crois que c'est peut-être pour ça qu'elle est une très belle allégorie et comme une métaphore de ce que peut être le livre et la bibliothèque. Donc j'espère que je vous ai séduit et que vous viendrez la découvrir. Alors on pourrait la comparer à la Joconde pour le Louvre, toute proportion gardée, parce que bon, il y a des tas de gens qui vont au Louvre pour voir la Joconde. C'est une image, la Joconde est une image, elle est facile d'appréhension, mais elle garde quand même une grande part de mystère. La Cantilène de Sainte-Eulalie, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un texte, donc elle est beaucoup plus difficile d'appréhension. Son écriture est assez lisible, c'est une belle minuscule carolingienne, mais c'est un texte en ancien français, donc il faut quand même faire un gros effort pour l'aborder, l'appréhender, la lire. Donc, je vous invite quand même à la découvrir sur notre site. Il y a une page de lecture interactive où on peut, avec la souris, faire apparaître la transcription et la traduction. Et bon, je pense qu'elle est très facile à apprendre par cœur. Un certain nombre de petits Valenciennois l'ont fait et beaucoup sont restés amoureux du texte et reviennent des années plus tard avec leurs amis ou leurs parents. Alors, je l'ai proposé récemment à un rappeur qui m'a demandé très curieusement si pour son premier disque de rap, il pouvait se faire photographier dans la bibliothèque des Jésuites. Bon, j'ai dit oui. Et puis je lui ai signalé aussi qu'il y avait ce texte et qu'il n'y avait pas de raison qu'il passe à côté sans peut-être y chercher une nouvelle source d'inspiration. Donc voilà, toutes les occasions sont bonnes pour le faire connaître.
On surveillera ce disque de près. On retourne la question.
Alors, avant d'enchaîner peut-être sur la question, je voulais dire que j'avais vraiment eu beaucoup de plaisir à lire le livre. Les textes sont vraiment très, très, très beaux et très, d'autant plus touchants que ça nous, le monde des bibliothèques nous concerne de près. Je voudrais remercier Anne-Marie Bertrand et Catherine Jackson d'avoir associé la bibliothèque de Valenciennes à ce beau projet littéraire et Christine Détré d'avoir osé venir jusqu'à Valenciennes. Dans le texte de Christine Détré, il y a effectivement dans les, sur la première page, dans les premières lignes, une allusion au fait que les bibliothèques sont un monde de contraintes, de retenue, de silence. Vous évoquez le bruit de vos talons sur le plancher qui dérange les autres lecteurs qui lèvent la tête, mais le texte se termine sur la très belle image d'une petite fille, la vôtre, qui caresse les livres et les boiseries. Donc cette belle façon d'apprivoiser la bibliothèque au fil de votre visite m'incite à vous poser deux questions. Y reviendrez-vous? Et si vous y revenez, est-ce que vous aurez à cœur d'utiliser cette expérience dans un de vos prochains livres personnels? Ou bien, si vous y revenez, est-ce que vous y reviendrez en tant que sociologue pour interroger les pratiques, les manières d'être, les postures des lecteurs dans les différents espaces? Il me semble que le corps des lecteurs dans la bibliothèque est une chose à laquelle nous devons faire très attention, dans la mesure où tout devient virtuel et que penser au confort du lecteur et à de nouvelles manières de se tenir dans la bibliothèque garantira pour nous la permanence du lieu en tant qu'institution physique.
Alors en fait, même les talons sur le plancher, c'est du corps aussi en fait. Hein, c'est la peur de déranger, de faire du bruit, de ne pas être à sa place. Et en fait, c'était quand on dit la peur des bibliothèques, du silence, ça dépend de quelle bibliothèque. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les bibliothèques municipales, d'enfance. Et là, j'y retourne par le biais de mes enfants, justement. Et celles qui m'ont fait peur, c'est celle de l'ENS à Ulm, c'est celle de l'ENS à Lyon, où je vais chercher les livres. Et là, il ne faut pas faire de bruit. Donc, et en même temps, c'est très bien. Donc, ce n'est pas les bibliothèques. Alors, y retourner, bah oui, ça m'a vraiment donné envie. Mais pour ce côté, justement... pour ce côté poétique, vraiment ça a été une découverte et je m'y attendais pas. Il y a vraiment eu ça parce que ce que je dis en tête, même le début, les briques, c'était pas les briques dont je me souvenais moi. Il y a en ce moment retour à Yvetot de Annie Ernaux, retour à Reims et Ribon. Là, ça fait un peu retour à Valenciennes, mais tout est. Voilà, les briques, elles étaient jolies, alors que dans mon souvenir, le Nord. Alors après, c'est tout un parcours aussi de vie où j'en suis partie par les livres, j'en suis partie par les études, et finalement, c'était intéressant d'y revenir par une commande littéraire, mais par une commande littéraire et pas sociologique, quoi. Et quand je suis partie du Nord, c'était pour aller en classe prépa littéraire et pour aller à Ulm en lettres classiques. Et ça a été après la socio, donc c'était vraiment comme une boucle. Et donc oui, j'aimerais beaucoup. En fait, ce que j'aimerais maintenant, alors ça, c'est le luxe que j'ai aujourd'hui où j'ai voilà, maintenant mon poste, je l'ai et je peux faire des choses qui ne sont pas que scientifiques, en fait. Hein, c'est ça aussi. Ça serait arrivé à faire quelque chose qui soit à la fois sur les ados qui étaient là, effectivement. Moi, je me souviens avoir croisé deux petites filles là, dans l'escalier qui couraient quand j'y suis allée. Et ces corps, ces ados dans les bibliothèques. J'ai fait une enquête sur les mangas. J'ai beaucoup de tendresse en fait quand je travaille sociologiquement sur les ados et la lecture et donc j'aimerais bien arriver à faire quelque chose à partir de Valenciennes parce que justement il y a ce public dont vous parliez tout à l'heure quoi et ce public où quand je me baladais dedans puis j'y repensais après ça me faisait penser au livre de Michel Petit enfin tout ce qu'elle dit sur donc qui est une anthropologue de la lecture quoi et quand elle montre toutes les ressources de la lecture en situation d'adversité. Et ça, je l'ai vu aussi quand j'ai travaillé sur les ados lecteurs de manga, ou comment, par une lecture, ils peuvent se réparer, ils peuvent réparer des failles, combler des blessures, alors qu'ils peuvent paraître anodines vu de notre... Alors effectivement, moi, mes ados lecteurs de manga, ce n'est pas les ados de Michel Petit, où c'est des situations d'enfants abandonnés, de guerre, etc. Moi, c'est... Ils sont en cours de récréation, ils n'ont pas de copains, et puis ils se mettent à parler de manga avec d'autres, et du coup, ils ont des copains. Ou bien ils se disent, j'ai pas de copains, mais c'est comme Naruto qui... Et donc, j'aimerais bien faire quelque chose voilà, pourquoi pas avec Michel Petit, une fois on en avait parlé de ça, de prendre une bibliothèque, mais voilà, en situation contemporaine, française, quotidienne, et de regarder qu'est-ce que ça fait, quoi, voilà, à des ados qui sont là, alors peut-être qu'ils sont avachis, peut-être qu'ils sont assoupis, peut-être qu'ils ne sont pas comme il faudrait l'être, mais ils sont là, quoi, et voilà, qu'est-ce que ça change dans une vie, même à une micro-dimension, en fait, d'avoir un endroit où on peut rentrer et de ne pas avoir peur d'y rentrer, en fait. Donc ça m'intéresserait beaucoup.
Je vois qu'il reste quelques minutes, et peut-être juste, puisqu'on a abordé cet aspect du corps à la bibliothèque, et que les quelques retours que j'ai eus, moi, et on en a parlé un petit peu, je ne sais pas pour ceux qui connaissent le livre, qui l'ont feuilleté, je pense aux photos. Je vais faire circuler le livre. Il y a beaucoup de dormeurs, de lecteurs qui dorment en BU, en BM, et plusieurs collègues nous ont fait retour en disant « Mais quand même, c'est quand même une image un petit peu curieuse de notre bibliothèque, c'est pas très gratifiant. » Et en discutant ici avec les personnes présentes et d'autres, je me rends compte que c'est beaucoup plus contrasté. À Valenciennes, apparemment, votre équipe a eu cette première réaction-là, et encore en disant « Bon, ça va, pour la bibliothèque de Valenciennes, ils sont pas trop endormis. » À mon sens, c'était plutôt un éloge des bibliothèques, puisque c'est quand même une des rares institutions publiques, je pense, où on peut dormir, et puis des jeunes qui peuvent dormir en confiance, c'est plutôt intéressant. C'est vrai aussi qu'Aurélie Pétrel, en tant que plasticienne, elle a fait ce choix dans toute sa série de choisir ces photos-là plutôt que d'autres, mais j'aimerais bien avoir votre réaction, puisque ça rejoint ce que tu disais. Alors bon, avachi, vautré, il y a un vocabulaire mais quelle image ça donne, c'est-à-dire le propos étant de ne pas avoir de photos illustratives ou au contraire académiques, et j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus, ou le retour de la salle si certains veulent intervenir. Si tu veux commencer sur ces photos
Vraiment quand je dis moi, à force de faire des entretiens sur les adolescents, sur leurs pratiques culturelles et leurs pratiques de lecture, moi, mes enfants, ils sont très contents que je travaille là-dessus, parce que maintenant, ils peuvent lire ce qu'ils veulent, des mangas, regarder la télé comme ils veulent. C'est bien. Donc, on découvre aussi qu'on applique souvent des jugements qui sont centrés, qui viennent de notre position légitime, de notre position d'adulte, de notre position de capital culturel, scolaire, etc. Donc, moi, je suis beaucoup plus maintenant sur une posture, alors sans du tout, ça montre aussi l'imposition des normes, la violence des légitimités, et je suis plus sur qu'est-ce qu'ils en font de tout ça, voilà, sur la réception. Qu'est-ce qu'ils font ils y sont, donc qu'est-ce qu'ils en font, voilà,
de la bibliothèque, du lieu.
Et puis on a vu là dans les enquêtes, alors un autre volet de mes travaux, mais quand on a fait une enquête statistique sur les pratiques culturelles des enfants, ils font plein de choses à la fois. Alors effectivement, on voit nous de l'extérieur, où on a été habitué à quand tu travailles dans le silence, eux ils vont travailler et en même temps il y a l'ordinateur allumé et en même temps il y a la musique, et c'est pas pour ça qu'ils ne se concentrent pas. Mais ils ne se concentrent pas de la même manière que nous le faisions. Donc j'essaye ça, c'est ça que j'essaye de travailler dans les entretiens avec les ados, en tout cas.
Et alors le regard du professionnel de la bibliothèque sur ce que véhicule ce genre de photographie pour vous ou pour vos collègues, sur ces corps qui dorment sur les photos?
C'est vrai que dans un premier temps, j'ai été un petit peu interloquée par les pas séduite. C'est que ces photos m'ont interpellée, mais plus dans un sens. Mais les bibliothèques n'offrent pas un espace agréable pour se reposer, pour se détendre à ces lecteurs qui ont un coup de barre en plein milieu de leur. J'aurais préféré que ces jeunes. Où ces lecteurs fatigués aillent dans un endroit plus chaleureux plutôt que d'être sur un mobilier où ils n'ont pas l'air si bien installés que ça. Donc je me suis dit il faudrait qu'on soit plus attentif. Voilà, tout à fait. Mais bon, je pense que ça commence à venir maintenant dans les bibliothèques. Donc,
Là, il reste quelques minutes. Oui, moi,
je dis que c'est plutôt bon signe ces jeunes qui dorment dans les bibliothèques. Ça veut dire qu'ils sont épuisés d'avoir trop lu. Et donc, ils ont tellement utilisé la bibliothèque, ils se sont tellement... enfin, c'est un peu une boutade, mais disons que... de toute façon, une bibliothèque, c'est un lieu de vie. Après, qu'on y vienne pour lire, qu'on y vienne pour discuter, pour échanger, pour écouter de la musique... l'essentiel, c'est d'y venir déjà, et puis à un moment ou à un autre, de toute manière, on sera attiré par un livre, par un disque, par une vidéo, par une animation, une exposition. Enfin, c'est sûr que c'est peut-être très contemporain. Très contemporain, ça a peut-être 10-20 ans maintenant où on sait qu'une bibliothèque, c'est un
cette
lieu de vie.
Cette idée d'une bibliothèque comme lieu de vie.
Voilà, ouais. On parle beaucoup de troisième lieu depuis... ça revient à la charge depuis, je ne sais pas, j'ai l'impression 5 ans, depuis que les bibliothèques sont en crise et se cherchent, se demandent où est ce qu'on va devenir, alors que c'est une notion qui est très ancienne.
Je vais juste vous interrompre parce qu'on va devoir libérer la salle.
C'est vrai.
Je passe la parole à Philippe. Quelqu'un dans la salle a envie d'intervenir, Philippe aussi, ou quelqu'un dans la salle intervenir sur l'ensemble de cet ouvrage, sur les textes ou sur les intervenants ou sur ces photos-là? Non, pour l'instant, non. Bien. Oui, il n'y a pas de micro, donc on n'est pas nombreux.
Parce que y a multiples manières d'accueillir les auteurs, les propositions qui arrivent de l'extérieur, les désirs des bibliothécaires. Je voulais réagir sur deux petits détails, qui ont leur importance. C'est que, par exemple, il n'y a pas très longtemps, c'est une collègue qui m'a soumis une demande justement d'un auteur. Moi, je dis auto-édité, parce que le cas que vous souleviez, il me semblait que ça relevait de l'auto-édition, et où on a ces critères de ne pas accueillir d'auteurs auto-édités. Les accompagner, parce qu'on peut accompagner un auteur qui est auto-édité dans son travail, l'encourager, le dialoguer avec lui, mais on n'est pas à l'étape de le présenter au public tant qu'un éditeur n'a pas choisi de l'éditer et n'a pas pris le risque de l'éditer. Voilà, c'est un critère qui peut, en tout cas, c'est une réponse qu'on peut donner à un auteur en lui expliquant tout simplement qu'il a un chemin à faire aussi. Et que qu'on est là, mais pas pour le présenter au lecteur. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est la question des interventions des auteurs. Et en bibliothèque, ce qui est un peu différent en librairie, c'est qu'on rémunère les auteurs qui viennent présenter leurs ouvrages. Voilà. Leurs ouvrages ou faire un travail d'atelier ou de conférence ou d'interventions diverses. Et par rapport aux photos, j'ai été très surprise qu'il y ait assez peu d'enfants.
C'est vrai, ouais. Oui. Et là aussi, ça se démarque de ce point de vue-là de l'imagerie habituelle associée aux bibliothèques en termes de représentation. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que là, c'était plutôt des commentaires qui prêteraient à débat. Le budget d'un côté, l'auto-édition, l'autorité de l'éditeur, mais c'est peut-être pas aborder ces sujets comme ça, mais c'est intéressant sur l'accueil des écrivains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question, globalement? Je n'ai pas lu de très court extrait du texte de Christine Détresse, ce que je regrette. J'aurais pas lu, il y a un extrait de la Cantilène dans son texte, que j'aurais pas pu lire, puisque c'est un ancien français, mais je vous laisse le découvrir dans l'ouvrage. Je remercie surtout nos intervenants, certains qui viennent de loin. C'est un débat qui était comme ça, bibliothèque, littérature, peut-être un entre-deux. Mais le livre, je pense, demande vraiment du temps, et j'espère qu'il va circuler, qu'en tant que professionnel, vous pourrez aussi peut-être inviter les auteurs ou débattre de ce qui est dit des bibliothèques dans ces textes-là. Et voilà, merci, à bientôt.